de France Culture jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. On vibre pour le héros, traditionnellement, classiquement, naturellement, pourrait-on dire, lorsqu'on lit un roman, quel qu'il soit. Après tout, si l'auteur en a fait un héros ou une héroïne de cet homme, de cette femme, quels que soient ses défauts et ses actes, il avait ses raisons. Mais le héros d'un roman français peut être allemand. Alors, le regard du lecteur, qui partage depuis des années le destin de son héros, pourrait-il changer du tout au tout en pleine guerre franco-allemande ? À voir. Depuis des années, oui, car en l'occurrence, le roman de Romain Rolland, Jean-Christophe, avait été publié en 10 volumes entre 1904 et 1912, au cahier de la quinzaine. Relation franco-allemande. De Romain Rolland, Jean Lacoste vient d'éditer chez Bartilla le journal de Vézelay, 1938-1944, un journal inédit de celui qui reçut le prix Nobel de littérature en 1915, cette même année où il publiait un manifeste pacifique, au-dessus de la mêlée. Cet écrivain tenait donc, jour après jour, le journal de la guerre suivante, la Seconde Guerre mondiale. Il notait les tragédies, il notait ses réflexions, mais aussi les petites histoires de village et puis l'histoire, avec un grand H, de la civilisation. En 1964, sur France Culture, Georges Charbonnier proposait, 20 ans après la mort de l'écrivain, une émission diffusée dans le cadre d'une série anniversaire Romain Rolland, Romain Rolland et l'Allemagne.
Journée Romain Rolland. France Culture présente Romain Rolland et l'Allemagne. Une émission de Georges Charbonnier, réalisée par Georges Gravier. Avec les témoignages de René Cheval, professeur à la faculté des lettres et des sciences humaines de Rennes. Et de Jean Guéhenno, de l'Académie française. Avec François Chaumette et Michel Etcheverry de la Comédie française. Les textes inédits de Romain Rolland seront lus par Michel Bouquet.
Il n'y a pas, nous l'avons dit, une vie de Romain Rolland séparable des prises de parti de Romain Rolland. La vie de Romain Rolland s'exprime par une attitude à l'égard de tous les problèmes. Examinons son attitude à l'égard de l'Allemagne. Jean-Christophe est allemand. Or, on ne lit pas Jean-Christophe sans prendre parti pour Jean-Christophe. Tout lecteur français est pour Jean-Christophe. Contre l'Allemagne ou contre la France? Ni contre l'une, ni contre l'autre. On est pour Jean-Christophe contre ses adversaires. On est pour le héros contre les hommes qui s'opposent à lui, qui gênent son action, qui détruisent son œuvre, aussi naïvement qu'au spectacle du mélo, aussi naïvement qu'au cinéma. Le roman sur les rapports de la France et de l'Allemagne ne concerne, en dernière analyse, ni la France ni l'Allemagne. Les nationalismes sont hors du débat. Le lecteur ne juge que des hommes dont il est tout à fait indifférent de savoir s'ils sont allemands ou français. Jean-Christophe est la clé qui permet de comprendre Romain Rolland et de lire en connaissance de cause au-dessus de la mêlée. Rappelons la date de l'article, 15 septembre 1915.
Le trait le plus frappant de cette monstrueuse épopée, le fait sans précédent, est dans chacune des nations en guerre, l'unanimité pour la guerre. C'est comme une contagion de fureur meurtrière qui, venue de Tokyo il y a 10 années, ainsi qu'une grande vague, se propage et parcourt tout le corps de la Terre. À cette épidémie, pas un n'a résisté. Plus une pensée libre qui ait réussi à se tenir hors d'atteinte du fléau. Il semble que sur cette mêlée des peuples, où quelle qu'en soit l'issue, l'Europe sera mutilée, plane une sorte d'ironie démoniaque. Ce ne sont pas seulement les passions de race qui lancent aveuglément les millions d'hommes les uns contre les autres, comme des fourmilières, et dont les pays neutres eux-mêmes ressentent le dangereux frisson. C'est la raison, la foi, la poésie, la science, toutes les forces de l'esprit qui sont enrégimentées et se mettent dans chaque État à la suite des armées. Dans l'élite de chaque pays, pas un qui ne proclame et ne soit convaincu que la cause de son peuple est la cause de Dieu, la cause de la liberté et du progrès humain, et je le proclame aussi. Des combats singuliers se livrent entre les métaphysiciens, les poètes, les historiens. Eucken contre Bergson, Hauptmann contre Maeterlinck, Roland contre Hauptmann, Wells contre Bernard Shaw. Kipling et D'Annunzio, Demel et De Régnier chantent les hymnes de guerre. Barrès et Maeterlinck entonnent des paix en de haine. Entre une fugue de Bach et l'orgue bruissant Deutschland über alles, le vieux philosophe Wundt, âgé de 82 ans, appelle de sa voix cassée les étudiants de Leipzig à la guerre sacrée. Et tous, les uns aux autres, se lancent le nom de barbares. L'Académie des sciences morales de Paris déclare par la voix de son président Bergson que
« La lutte engagée contre l'Allemagne est la lutte même de la civilisation contre la barbarie. »
L'histoire allemande par la bouche de Karl Lamprecht répond que
« La guerre est engagée entre le germanisme et la barbarie et que les combats présents sont la suite logique de ceux que l'Allemagne a livrés au cours des siècles contre les Huns et contre les Turcs. »
La science, après l'histoire, descendant dans la lice, proclame avec Perrier, directeur du muséum, membre de l'Académie des sciences, que les Prussiens n'appartiennent pas à la race aryenne, qu'ils descendent en droite ligne des hommes de l'âge de pierre appelés allophiles, et que
le crâne moderne, dont la base, reflet de la vigueur des appétits, rappelle le mieux le crâne de l'homme fossile de la chapelle aux saints, est celui du prince de Bismarck.
Mais les deux puissances morales dont cette guerre contagieuse a le plus révélé la faiblesse, c'est le christianisme et c'est le socialisme. Ces apôtres rivaux de l'internationalisme religieux ou laïque se sont montrés soudain les plus ardents nationalistes. Hervé demande à mourir pour le drapeau d'Austerlitz. Les purs dépositaires de la pure doctrine, les socialistes allemands, appuient au Reichstag les crédits pour la guerre, se mettent aux ordres du ministère prussien, qui se sert de leurs journaux pour répandre ses mensonges jusque dans les casernes et qui les expédie comme des agents secrets pour tâcher de débaucher le peuple italien. On a cru un moment, pour l'honneur de leur cause, que 2 ou 3 d'entre eux s'étaient fait fusiller en refusant de porter les armes contre leurs frères. Ils protestent, indignés, tous marchent, l'arme au bras. Non, Liebknecht n'est pas mort pour la cause socialiste. C'est le député Franck, le principal champion de l'Union franco-allemande, qui est tombé sous les balles françaises pour la cause du militarisme. Car ces hommes, qui n'ont pas le courage de mourir pour leur foi, ont celui de mourir pour la foi des autres. Quant aux représentants du prince de la paix, prêtres, pasteurs, évêques, c'est par milliers qu'ils vont dans la mêlée pratiquer le fusil au poing, la parole divine, « Tu ne tueras point » et « Aimez-vous les uns les autres ». Chaque bulletin de victoire des armées allemandes, autrichiennes ou russes remercie le maréchal Dieu, Unser Alter Gott, notre Dieu, comme dit Guillaume II ou M. Arthur Meyer, car chacun a le sien. Et chacun de ces dieux, vieux ou jeunes, a ses lévites pour le défendre et briser le dieu des autres. 20 000 prêtres français marchent sous les drapeaux. Les jésuites offrent leur service aux armées allemandes. Des cardinaux lancent des mandements guerriers. On voit les évêques serbes de Hongrie engager leurs fidèles à combattre leurs frères de la Grande Serbie. Et les journaux enregistrent, sans paraître s'étonner, la scène paradoxale des socialistes italiens à la gare de Pise, acclamant les séminaristes qui rejoignent leur régiment et tous ensemble chantant la Marseillaise. Tant est fort le cyclone qui les emporte tous, tant sont faibles les hommes qu'ils rencontrent sur sa route, et moi comme les autres. Allons, ressaisissons-nous. Quelle que soit la nature et la virulence de la contagion, épidémie morale, force cosmique, ne peut-on résister? On combat une peste. On lutte même pour parer au désastre d'un tremblement de terre. Ou bien nous inclinerons-nous satisfaits devant eux comme l'honorable Luigi Luzzatti en son fameux article « Dans le désastre universel, les patries triomphent ». Dirons-nous avec lui que pour comprendre cette vérité grande et simple, l'amour de la patrie, il est bon, il est sain, que se déchaîne le démon des guerres internationales qui fauchent des milliers d'êtres. Ainsi, l'amour de la patrie ne pourrait fleurir que dans la haine des autres patries et le massacre de ceux qui se livrent à leur défense. Il y a dans cette proposition une féroce absurdité et je ne sais quel dilettantisme néronien qui me répugne jusqu'au fond de mon être. Non, l'amour de ma patrie ne veut pas que je haïsse et que je tue les âmes pieuses et fidèles qui aiment les autres patries. Il veut que je les honore et que je cherche à m'unir à elles pour notre bien commun. Vous, chrétiens, pour vous consoler de trahir les ordres de votre maître, vous dites que la guerre exalte les vertus de sacrifice. Et il est vrai qu'elle a le privilège de faire surgir des cœurs les plus médiocres le génie de la race. Elle brûle dans son bain de feu les scories, les souillures, elle trempe le métal des âmes. D'un paysan avare, d'un bourgeois timoré, elle peut faire demain un héros de Valmy. Mais n'y a-t-il pas de meilleur emploi au dévouement d'un peuple que la ruine des autres peuples? Et ne peut-on se sacrifier, chrétien, qu'en sacrifiant son prochain avec soi? Je sais bien, pauvres gens, que beaucoup d'entre vous offrent plus volontiers leur sang qu'ils ne versent celui des autres. Mais quelle faiblesse, au fond! Avouez donc que vous qui ne tremblez pas devant les balles et les shrapnels, vous tremblez devant l'opinion soumise à l'idole sanglante, plus haute que le tabernacle de Jésus, l'orgueil de race jaloux. Chrétiens d'aujourd'hui, vous n'eussiez pas été capables de refuser le sacrifice aux dieux de la Rome impériale. Votre pape Pie X est mort de douleur, dit-on, de voir éclater cette guerre. Il s'agissait bien de mourir. Le Jupiter du Vatican qui prodigua sa foudre contre les prêtres inoffensifs que tentait la noble chimère du modernisme, qu'a-t-il fait contre ces princes, contre ces chefs criminels, dont l'ambition sans mesure a déchaîné sur le monde la misère et la mort? Que Dieu inspire au nouveau pontife qui vient de monter sur le trône de Saint-Pierre les paroles et les actes qui lavent l'Église de ce silence. Quant à vous, socialistes, qui prétendez chacun défendre la liberté contre la tyrannie, français contre le Kaiser, allemand contre le Tsar, s'agit-il de défendre un despotisme contre un autre despotisme? Combattez-les tous deux et mettez-vous ensemble. Entre nos peuples d'Occident, il n'y avait aucune raison de guerre. En dépit de ce que répète une presse envenimée par une minorité qui a son intérêt à entretenir ses haines, frères de France, frères d'Angleterre, frères d'Allemagne, nous ne nous haïssons pas. Je vous connais, je nous connais. Nos peuples ne demandaient que la paix et que la liberté. Le tragique du combat pour qui serait placé au centre de la mêlée et qui pourrait plonger son regard des hauts plateaux de Suisse dans tous les camps ennemis, c'est que chacun des peuples est vraiment menacé dans ses biens les plus chers, dans son indépendance, son honneur et sa vie. Mais qui a lancé sur eux ces fléaux? Qui les a acculés à cette nécessité désespérée d'écraser l'adversaire ou de mourir? Qui, sinon leurs États? Et d'abord, à mon sens, les trois grands coupables, les trois aigles rapaces, les trois empires, la tortueuse politique de la maison d'Autriche, le tsarisme dévorant et la Prusse brutale. Le pire ennemi n'est pas au dehors des frontières, il est dans chaque nation. Et aucune nation n'a le courage de le combattre. C'est ce monstre à 100 têtes qui se nomme l'impérialisme, cette volonté d'orgueil et de domination qui veut tout absorber ou soumettre ou briser, qui ne tolère point de grandeur libre hors d'elle. Le plus dangereux pour nous, hommes de l'Occident, celui dont la menace levée sur la tête de l'Europe l'a forcé à s'unir en armes contre lui, est cet impérialisme prussien qui est l'expression d'une caste militaire et féodale, fléau non pas seulement pour le reste du monde, mais pour l'Allemagne même, dont il a savamment empoisonné la pensée. C'est lui qu'il faut détruire d'abord. Mais il n'est pas le seul. Le tsarisme aura son tour. Chaque peuple a plus ou moins son impérialisme, quelle qu'en soit la forme, militaire, financier, féodal, républicain, social, intellectuel, il est la pieuvre qui suce le meilleur sang de l'Europe. Contre lui, reprenons hommes libres de tous les pays, dès que la guerre sera finie, la devise de Voltaire, écrasons l'infâme.
Ce texte, nous l'avons dit, partagea les combattants en deux camps qui ne coïncidaient pas avec les camps constitués des belligérants. Ceux qui pensaient qu'il fallait fusiller l'auteur, et le disaient, comprenaient des Français et des Allemands. La pensée exprimée par Romain Rolland était celle de Français et celle d'Allemands. Au-dessus de la mêlée ne signifiait pas et ne signifie pas détaché de la mêlée, indifférent à la mêlée, juge lointain et méprisant de la mêlée. C'était une prise de parti pour les hommes, pour les peuples, Français et Allemands. Contre les intérêts, contre les représentants de ces intérêts, contre les intéressés, français et allemands, qui avait jeté ses hommes, ses peuples, les uns contre les autres. C'était un refus de considérer comme une expression nationale la volonté d'agression, le bellicisme, l'impérialisme. C'était refuser de considérer comme une expression nationale naturelle, inévitable, l'esprit de conquête ou de destruction de l'autre. Romain Rolland n'a pas proposé à l'individu une attitude destinée à s'opposer aux volontés de ceux qui préparent et conduisent les guerres. Alain propose des solutions concrètes. Alain dresse le citoyen contre les pouvoirs et lui apprend à lutter contre les pouvoirs. Romain Rolland n'est pas l'homme des recettes individuelles, le philosophe de l'individu, le maître de l'individu isolé dans la société et décidé à s'opposer au pouvoir. Romain Rolland n'incite pas à la révolution, c'est un homme libre qui juge librement des cas concrets. Voltaire imagine une construction prudente qui déguise l'attaque. L'action d'un roman de Voltaire est lointaine, dans l'espace, dans le temps. Rousseau généralise sa pensée et s'élève au-dessus des cas particuliers. Il est subversif parce que ceux qui l'attaquent savent que le raisonnement de Rousseau leur est applicable. Rousseau ne les désigne pas. Romain Rolland désigne ceux qu'il juge. Il les nomme et les juge.
Je ne suis pas, dans l'absolu, un partisan de la non-résistance tolstoïenne. Je considère la guerre présente. Et à mesure que, depuis 3 ans, je m'efforce d'en connaître impartialement les dessous et d'en suivre le déroulement, je vois de tous côtés une telle somme d'injustice, d'insanité, d'hypocrisie et de crime, une telle somme, d'autre part, d'héroïsme, de dévouement, de grandeur, stupidement employée, qu'il m'est devenu impossible de me passionner pour l'issue du combat. Entre les deux parties, il n'y a, en bien comme en mal, des différences que de nuances, et ces nuances se retrouvent aussi bien entre alliés qu'entre adversaires, elles se retrouvent même entre fractions d'un même peuple. Vraiment, une telle mêlée est ridicule et infâme. Et entre ses frères ennemis, certes la non-résistance eût produit moins de désastres que cette rixe d'ivrogne. En juillet 1914, il n'y avait pas une civilisation française, une civilisation allemande, une civilisation anglaise, etc. Il y avait une civilisation européenne. Aujourd'hui, il n'y a plus de civilisation du tout. Et tous les principes invoqués au début de la guerre ont été piétinés, saccagés par tous les belligérants, ce qui est d'ailleurs parfaitement conforme aux prévisions de la sagesse de tous les temps, y compris l'Évangile. Dans de telles conditions, il m'est impossible de ne pas faire la critique de tout le système social et moral, les deux sont liés, sur lequel repose ce monstrueux amas de crimes et d'absurdités. Et il me faut bien voir la lourde part de responsabilité qui ont les idées qui furent grandes et bienfaisantes autrefois comme l'idée de patrie. L'humanité grandit, je ne dis pas qu'elle vaille mieux, mais en tout cas, elle ne peut plus tenir dans les vêtements d'autrefois. Où elle étouffera dedans, où elle les fera éclater. Je ne me fais pas d'illusions exagérées pour l'avenir, mais l'avenir est ce qu'il y a devant nous. Et quand on marche, on regarde, on doit regarder devant soi et non derrière. Affirmer que l'avenir sera ce que fut le passé, c'est dire ce que nous ne savons pas, d'abord parce que notre connaissance du passé est minime et ensuite parce que celle de l'avenir est nulle. Tâchons que ce ne soit pas Arculon.
Dans une lettre inédite comme les précédentes, qui était adressée à Paul Seipel le 14 février 1917, dans une lettre adressée à Charles Baudouin le 14 mars 1931, Romain Rolland écrivait
« Je suis en train de relire ces jours-ci au-dessus de la mêlée et les précurseurs pour une préface que je dois écrire à l'édition allemande qu'on va faire enfin de ces 2 livres en un seul volume. » Pas en Allemagne, le nationalisme allemand est trop fort, aucun éditeur ne s'y risquerait encore, mais en Suisse allemande. J'ai revécu ces 17 dernières années et j'ai fait mes comptes. J'ai relevé sur mon registre que pas un jour depuis ce point de départ d'août 1914, je n'ai cessé de marcher. Ah, quand je lis dans votre lettre votre position aussi forte, aussi définitive, qu'elle le fut en 1914. Je souris amèrement, car aucune position n'a été aussi provisoire et chancelante pour moi que celle de ces articles de « Au-dessus de la mêlée ». Je ne sais pas si d'autres, depuis, y ont fait leur siège. Depuis, car sur le moment, bien peu me l'ont manifesté. Mais moi, je sais bien que c'est à partir de ces jours que j'ai commencé de marcher. Et depuis, je n'ai jamais, jamais cessé. Je ne me doutais guère en septembre-octobre 1914, quand mes yeux ont commencé de se dessiller de ce qu'ils verraient et où cette marche me mènerait. Pouvais-je imaginer combien d'illusions politiques, sociales, intellectuelles, il me faudrait une à une arracher. Au début d'août 1914, mon pauvre ami, je croyais, comme tant d'autres, en ma patrie, en la justice de sa cause, en son amour loyal de la vérité, en sa profonde et vive humanité, il m'a fallu déchanter. Et quand est venue la paix tant invoquée dans ces sinistres années 1918-1919, lorsque je pensais enfin faire un peu halte au milieu de braves gens, que les épreuves avaient mûri, groupé, choisi. Comme j'étais loin du compte. Je n'avais même pas fait alors la moitié du chemin. Il m'a fallu de nouveau arracher feuille par feuille les illusions de ces braves gens, de ces libres intellectuels à qui j'avais fait appel, sentir couler entre mes doigts le sable de ces âmes et désengluer mes talons de la fondrière de ces idéalismes. La liberté de l'esprit, oui, elle ne leur coûte guère. Et certes, à la façon dont ils l'entendent, il n'y a guère de risque qu'elle inquiète leur maître. Ils sont comme ces foudres de l'intelligence au siècle classique de nos rois et de leurs bastilles. Ils étaient libres en vers latin. Lorsque les plus hardis ont mis leur signature au bas d'une anodine et vaine protestation, ils se remettent à leur petit jeu et leur conscience est bien satisfaite. Si dans l'enfer social de ce monde, les races et les classes qui sont livrées au bon plaisir des rapaces et des bourreaux n'avaient eu l'idée enfin de se lever et de s'organiser, ce n'est certainement pas les libres âmes intellectuelles qui les auraient jamais sorties de leur géhenne. Et ces intellectuels, même les meilleurs et les plus grugés, sont devenus tellement domestiqués qu'ils ne voient même pas que la révolte de ces prolétaires combat pour eux et pour toute l'humanité, car l'humanité tout entière est aujourd'hui menacée, comme elle ne le fut jamais à ce point, par la mainmise de maîtres absolus, invisibles, anonymes, sans frein, sans contrepoids. Il s'agit bien encore des patries, des nations ou des civilisations. Il s'agit bien de jouter avec des dogmes et des idées. Il s'agit de savoir à qui appartiendra le travail humain. Sera-ce aux travailleurs ou à ces taureaux assyriens? Et les travailleurs, c'est vous, c'est moi, ce sont vos enfants, c'est nous tous. Et le travail, c'est la vie. À qui la vie sera-t-elle demain?
N'oublions pas que Romain Rolland se proclamait français intégral. Romain Rolland n'est pas un homme qui renie sa patrie, son peuple, sa culture. Comment éclairer l'attitude de Romain Rolland avant, pendant et après la guerre de 1914? C'est à M. René Cheval, professeur à la faculté des lettres et des sciences humaines de Rennes, auteur d'un tout récent et très remarquable ouvrage intitulé « Romain Rolland, l'Allemagne et la guerre », que nous posons la question.
René Cheval, peut-on dire que, on l'a dit, peut-on dire que Romain Rolland est germanophile?
Eh bien, c'est une légende qui a été longtemps répandue en France et je ne suis pas sûr que cette légende soit aujourd'hui entièrement dissipée. Cela remonte dès avant la guerre de 1914, je tiens à le préciser, bien avant que Romain Rolland n'ait écrit son très célèbre « Au-dessus de la mêlée ». Cette légende remonte vraisemblablement à Jean Christophe. Jean Christophe, vous le savez, c'est le destin d'un homme dont l'existence est partagée entre la France et l'Allemagne. Et les adversaires de Romain Rolland ont vu son propre destin à l'image de celle de Jean Christophe, d'un cœur divisé entre la France et l'Allemagne. Cette légende prend appui, bien entendu, sur tout ce que la culture de Romain Rolland comportait d'éléments allemands, et particulièrement la musique. car Marolan est au premier chef un musicien. Il a écrit le roman d'un musicien. Il est un très bon connaisseur de la musique allemande, sur laquelle il a écrit de nombreux livres et de nombreux articles. Et précisément le fait qu'il soit musicien apparaît aux yeux de certains critiques comme la marque de quelque chose d'anti-français. Car le monde de la musique, c'est le monde du fluide, c'est le monde de l'informe, c'est le monde de l'irrationnel. Et les tenants du classicisme français, des gens comme Massis, comme Maurras, ont vu là-dedans, bien entendu, le signe d'une perversion foncière.
Romain Rolin a-t-il une connaissance parfaite de la langue allemande ?
Eh bien, je crois que, à cet égard, on se fait beaucoup d'illusions. Romain Rolland savait l'allemand, il l'avait appris au cours de ses études universitaires, mais il ne connaissait pas mieux l'allemand que beaucoup de Français de sa génération. Il savait d'allemand ce qu'il fallait pour aborder les grands chefs-d'œuvre de la littérature allemande sans avoir besoin d'un interprète, mais jamais il n'a parlé l'allemand, et il est facile de relever dans les traductions qu'il donne, dans ses œuvres d'ouvrages allemands, un certain nombre d'erreurs que ne commettraient pas des étudiants de seconde ou de troisième année. D'une façon générale, je pense qu'on se fait beaucoup d'illusions sur la nature et l'ampleur des contacts personnels de Romain Rolland avec l'Allemagne. On s'imagine, par exemple, qu'il a dû parcourir ce pays du nord au sud et de l'est à l'ouest, et qu'il en a une connaissance immédiate très poussée. En réalité, ce n'est pas cela du tout. Lorsqu'on fait le compte de la totalité des séjours que Romain Rolland a fait en Allemagne, je crois qu'on arrive au total peu impressionnant de 5 ou 6 mois. Romain Rolland a été assez peu fréquemment en Allemagne et il ne connaît pas l'Allemagne aussi bien qu'on l'imagine en général.
Donc ses contacts avec l'Allemagne en tant que pays sont assez réduits.
Ses contacts sont moins des contacts avec l'Allemagne vivante, avec l'Allemagne d'aujourd'hui, à l'égard de laquelle il a pas mal de méfiance, que des contacts avec la grande Allemagne de la tradition humaniste. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a chez Romain Rolland deux images de l'Allemagne qui se juxtaposent à l'époque où il écrit Jean-Christophe. Il y a la grande et vieille Allemagne, c'est-à-dire l'Allemagne de Goethe et de Beethoven. En gros, l'Allemagne telle qu'elle se présente au tournant du XVIIIe et du XIXe siècle. L'Allemagne qui a apporté à l'humanisme européen quelques-uns de ses éléments les plus significatifs. L'Allemagne, c'est donc pour Romain Rolland un capital de culture, un capital de culture parmi d'autres, car l'Allemagne n'est pas exclusive dans son univers d'intellectuels, mais c'est un capital important à côté de celui que lui apporte l'Angleterre de Shakespeare ou l'Italie de Michel-Ange. Mais le problème que se pose Romain Rolland, et c'est là la clé même de Jean-Christophe que l'on n'a pas toujours bien lu, la question qui se pose pour Romain Rolland à cette époque est précisément le problème de la non-coïncidence entre deux images de l'Allemagne. L'image de l'Allemagne de Goethe et de Beethoven, qui est une image arrachée au temps, et d'autre part l'image de l'Allemagne présente. Pour dire les choses plus nettement, la question que se pose Romain Rolland est de savoir comment l'Allemagne de Goethe a pu devenir l'Allemagne de Bismarck et de Guillaume II. La question pour lui est de savoir pourquoi l'Allemagne n'est pas restée fidèle à la tradition. Pourquoi l'Allemagne n'est pas restée fidèle à cette image d'elle-même qu'en avaient donné précisément Goethe et Beethoven. Et c'est ainsi qu'il est amené à se poser une question qui est d'une extrême importance et qui passionne tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin à l'Allemagne. C'est précisément de savoir quand et comment s'est produite cette rupture dans la tradition allemande. Et je pense que Romain Rolland a été un des plus subtils analystes de ce phénomène. Il l'a analysé, bien sûr, essentiellement en musicien, car avant d'être un homme de lettres,
Il est un musicien et pour lui, l'histoire de la culture s'inscrit plus dans l'histoire de la musique que dans l'histoire des lettres. Et le phénomène pour lui le plus révélateur pour comprendre cette discontinuité de l'Allemagne au XIXe siècle, ça aura été sans doute le phénomène Wagner. Le phénomène Wagner qui l'a beaucoup passionné lorsqu'il était jeune. On se rappelle que lorsqu'il préparait l'école normale supérieure, il allait au concert Colonne à Paris en compagnie de Paul Claudel, s'initier à la Valkyrie ou à l'Or du Rhin. Et Wagner avait été, pour ses 18 ans, une révélation extraordinaire. Et puis, petit à petit, il est entré plus profondément dans le monde wagnérien. Il s'est rendu lui-même, alors qu'il était à Rome, à l'école française de Rome, en compagnie de sa vieille amie Malvida von Meisenburg, il s'est rendu dans le sanctuaire des Wagner, à Wanfried. Et là, il a été profondément déçu. Il a été profondément déçu de ce culte de Wagner qui se répandait alors à travers l'Allemagne.
Il y avait dans la ville, comme dans la plupart des villes allemandes, un Wagnerverein qui représentait les idées neuves contre le clan conservateur. Bon, certes, on ne courait plus grand risque à défendre Wagner, quand sa gloire était partout reconnue et ses œuvres inscrites au répertoire de tous les opéras d'Allemagne. Cependant, sa victoire était plutôt imposée par la force que consentie librement, et au fond du cœur, la majorité restait obstinément conservatrice, surtout dans les petites villes comme celle-ci, demeurées un peu à l'écart des grands courants modernes et fières d'un antique renom. Plus que partout ailleurs, régnait là cette méfiance, innée au peuple allemand, contre toute nouveauté, cette paresse à sentir quelque chose de vrai et de fort qui n'eût pas été ruminé déjà par plusieurs générations. On s'en apercevait à la mauvaise grâce avec laquelle étaient accueillies, sinon les œuvres de Wagner qu'on n'osait plus discuter, et toutes les œuvres nouvelles inspirées de l'esprit wagnérien. Aussi, les Wagnerverein auraient-ils eu une tâche utile à remplir s'ils avaient pris à cœur de défendre les forces jeunes et originales de l'art. Ils le firent parfois, et Bruckner ou Hugo Wolf trouvèrent en certains d'entre eux leurs meilleurs alliés. Mais trop souvent, l'égoïsme du maître pesait sur ses disciples. Et de même que Bayreuth ne servait qu'à la glorification monstrueuse d'un seul, les filiales de Bayreuth étaient de petites églises où l'on disait éternellement la messe en l'honneur du seul Dieu. Tout au plus, admettait-on dans les chapelles latérales les disciples fidèles qui appliquaient à la lettre les doctrines sacrées et adoraient, la face dans la poussière, la divinité unique aux multiples visages, musique, poésie, drame et métaphysique.
Et lentement s'est opérée en lui une démystification du phénomène Wagner. Et il a vu en lui une sorte de phénomène de transition. Un phénomène de transition se manifeste ce qu'il appelle cette maladie de la volonté qui s'instaure en Allemagne dans la seconde moitié du XIXe siècle. Maladie de la volonté qui a vraisemblablement son origine chez Schopenhauer. Et cela pas du tout par hasard. Schopenhauer qui a été le maître de Nietzsche et de Wagner. Maladie de la volonté dont Romain Rolland donne une double interprétation qui est intéressante. Maladie de la volonté parce qu'elle a conduit, d'une part, à l'hypertrophie de la volonté chez quelques-uns, ce qui explique cette mystique du chef qui existe en Allemagne, ce qui explique le sens de l'autorité qui existe chez bon nombre d'Allemands, et corollairement, une sorte d'apathie de la volonté dans la grande masse qui les rend précisément plus sensibles à ces injonctions qui viennent du pouvoir. Il y a donc deux images de l'Allemagne qui sont présentes en même temps chez Romain Rolland. Une image qui est en dehors du temps, l'image d'une grande et noble tradition européenne. Et puis, d'autre part, il y a les réalités. Il y a l'Allemagne telle qu'elle se présente à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, une nation exigeante, avec une politique dangereuse pour la France, un peuple qui brandit souvent ses foudres et qui menace précisément la jeune France, celle que représentent Romain Rolland et Peggy, qui est en train précisément d'essayer de se renouveler, qui la menace dangereusement.
Est-ce que la lecture de Jean-Christophe met bien en lumière la position de Romain Rolland à l'égard de l'Allemagne en tant que pays, en tant que culture. Enfin, est-ce qu'il suffirait de lire Jean-Christophe pour être parfaitement éclairé sur les rapports de Romain Rolland et de l'Allemagne ?
En effet, mais je crois qu'en général, on a fort mal lu Jean-Christophe. La critique de l'Allemagne qui est contenue dans le livre 4 de Jean-Christophe dans La Révolte est une des plus sévères qui ait été écrite en France au début du XXe siècle. Romain Rolland a véritablement démystifié cette réalité allemande. Ce qu'il reproche à l'Allemagne, c'est d'abord, du point de vue du musicien qu'il est et qu'il est toujours, c'est l'attitude de l'Allemagne à l'égard de la musique. L'Allemagne, dit-il, est un pays qui absorbe des quantités de musique au point de s'en donner, c'est sa propre expression, une véritable dilatation d'estomac.
Trop de musique, trop de boissons, trop de mangeailles, écrivait Christophe. On mange, on boit, on ouit, sans faim, sans soif, sans besoin, par habitude de goinfrerie. C'est un régime d'oie de Strasbourg. Ce peuple est malade de boulimie. Peu lui importe ce qu'on lui donne, Tristan ou le Trompeter von Seckingen, Beethoven ou Mascagni, une fugue ou un part doublé, Adam, Bach, Puccini, Mozart ou Marchner. Il ne sait pas ce qu'il mange. L'important, c'est qu'il mange. Il n'y trouve même plus de plaisir. Voyez-le au concert. Il parle de la gaieté allemande. Ces gens-là ne savent pas ce que c'est que la gaieté. Ils sont toujours gais. Leur gaieté, comme leur tristesse, se répand en pluie, c'est de la joie en poussière. Elle est atone et sans force. Ils resteraient pendant des heures absorbés en souriant béatement. Des sons, des sons, des sons. Ils ne pensent à rien. Ils ne sentent rien. Ce sont des éponges. La vraie joie, la vraie douleur, la force ne se distribue pas pendant des heures comme la bière d'un tonneau. Elle vous prend à la gorge et vous terrasse. Et on n'a plus envie après de rien d'autre. On a son compte.
Il y a en Allemagne une sorte de perversion du goût. On accepte tout ce qui est proposé sans qu'il y ait un choix qui soit fait par les individus, sans que se manifestent des tendances individuelles. L'Allemand, tel que Romain Rolland l'a vu dans Jean-Christophe, l'Allemand est un être passif, est un être moutonnier qui aime s'agglomérer dans des salles de concert ou des salles de restaurant, qui ne se manifeste que très rarement de façon individuelle. L'Allemand, c'est un être intégré. Et cela gêne, bien sûr, énormément cet esprit individualiste et libre qu'est Romain Rolland. Et il y voit des dangers. Il y voit des dangers, notamment eu égard à la politique qui est menée par Guillaume II, car il parle de Guillaume II dans Jean-Christophe, il nous montre les dangers de cette politique extrêmement orgueilleuse et brutale et qui cache mal ses rêves d'hégémonie. Un de ses reproches les plus pertinents à l'égard de l'Allemagne de ce temps, c'est l'idéalisme, ou plus exactement, le faux idéalisme des Allemands. La façon dont ils ont de recouvrir de bons et pieux sentiments des idées qui ne sont pas toujours très pensées, ni souvent très honnêtes. Le grand problème pour lui, c'est le faux idéalisme de l'Allemagne. L'Allemagne manque de vérité. L'Allemagne se laisse porter par des mythes qui sont assez vagues, et dont elle n'aperçoit pas toujours le côté nocif et le côté dangereux. Il y a bien entendu dans Jean-Christophe, à côté de cette critique véhémente de l'Allemagne, cette critique est véhémente au point que Christophe lui-même ne peut pas demeurer dans ce pays, qu'il est obligé de le quitter, qu'il y trouve l'atmosphère irrespirable et qu'il cherche en France un air plus frais et une atmosphère plus propice à la création artistique. À côté de ces critiques qui sont violentes, qui sont pertinentes, qui sont mordantes, il y a évidemment également une vision de la vieille Allemagne, une vision de ces Allemands d'autrefois qui vivent dans un monde d'idées généreuses, qui s'adonnent à l'art, qui considèrent la musique comme un art véritablement profond et qui donne à l'homme un élargissement, qui élargit l'homme au-delà des dimensions nationales. Et il a fait apparaître dans Jean-Christophe un certain nombre de personnages qui sont représentatifs de cette idée généreuse. Mais au total, il faut bien le dire, l'image de l'Allemagne telle qu'elle se présente dans Jean-Christophe est une image fort négative. Et il est certain que dès Jean-Christophe, Romain Rolland sentait venir cette guerre. Il la sentait inéluctable. Ce qui en lui s'opposait, bien sûr, à l'idée de la guerre, c'était l'homme de culture, c'était l'homme qui pensait toujours à cette noble tradition allemande. Mais les faits qu'il voyait, qu'il analysait, qu'il disséquait, les faits semblaient lui indiquer que rien ne pouvait arrêter cette marche fatale vers la catastrophe. Cela, je crois qu'il est nécessaire de le comprendre pour examiner impartialement l'attitude de Romain Rolland devant la guerre de 1914-1918.
Quelle est donc cette attitude ?
Eh bien, vous savez que on a beaucoup reproché à Romain Rolland de s'être tenu pendant cette guerre à l'écart de son pays, de ne pas avoir épousé la cause de la France. On a même dit qu'il s'était réfugié en Suisse, ce qui est tout à fait inexact, puisqu'il était en Suisse dès avant le début des hostilités. On lui a reproché d'avoir donné au recueil de ses écrits sur la guerre le titre d'au-dessus de la mêlée, comme si Romain Rolland avait voulu se placer au-dessus des combattants, comme s'il avait voulu juger de très haut, comme un grand prêtre, les actions de ceux qui étaient au contact et qui souffraient dans leur chair de la guerre. Il y a bien entendu toute une série de malentendus sur l'attitude de Romain Rolland pendant la guerre, et je pense qu'il faudrait les éclairer, ce qui est possible aujourd'hui, depuis la publication de ce grand et bel ouvrage qui est le journal des années de guerre. Il est certain, à mon sens, que au début de la guerre, Romain Rolland a épousé très étroitement la cause française. Si l'on relit attentivement les premiers articles d'au-dessus de la mêlée, on se rend compte qu'il a vibré avec les menaces qui pesaient sur la France. On se rend compte d'abord d'une chose, c'est qu'il n'a pas cru bon d'écrire, il n'a pas cru bon de prendre la parole avant la bataille de la Marne. Cela me paraît très important. Il a attendu que le plus grave danger soit écarté pour élever une parole sur la guerre. Auparavant, il ne le pouvait pas puisque son pays était sous une menace très grave. Dans ses premiers articles, Romain Rolland fait essentiellement le procès de l'Allemagne. Procès de l'Allemagne qui a déclenché cette guerre pour des intérêts égoïstes. Procès de l'Allemagne qui conduit la guerre d'une façon qu'aucun homme de culture ne peut approuver. Ce qu'il reproche en termes très vifs au Kaiser et à ses armées, c'est d'abord la violation de la neutralité belge, qu'il considère comme un forfait. Ce qu'il leur reproche également, ce sont les atrocités commises dans les pays occupés par l'Allemagne. Et troisièmement, c'est la façon dont les Allemands s'en sont pris au chef-d'œuvre de la grande tradition européenne. Il pense à l'incendie de la bibliothèque de Louvain, il pense à la cathédrale de Reims. Pour lui, l'Allemagne, en se comportant dans la guerre de cette manière, rompt définitivement la tradition qu'il a rattachée à Goethe. Et c'est pourquoi, dans la première lettre qu'il adresse au début de la guerre à un intellectuel allemand, et qui est Gerhard Trautmann, il lui pose la question suivante. Allemand, êtes-vous les petits-fils de Goethe ou les petits-fils d'Attila ? C'est dire qu'il demande à l'Allemagne si elle s'est vouée de façon définitive à la barbarie ou si subsiste chez elle un peu de la grande tradition Goethe. Ce qu'il reproche également à l'Allemagne, et cela est important, cela provient d'une analyse approfondie à laquelle il s'est livré de l'intellectualité allemande à cette époque. Ce qu'il lui reproche, c'est de s'être livré, plus que tout autre, à la frénésie de la guerre, à l'ivresse verbale qui s'est emparée de ses intellectuels. Romain Rolland, homme de culture, pensait que le seul obstacle contre la guerre pouvait être l'accord entre les hommes de culture, que eux étaient les gardiens d'une certaine civilisation européenne, et qu'ils feraient obstacle à la guerre. Ils prendraient la parole pour dénoncer la guerre en tant qu'elle est un obstacle au progrès, en tant qu'elle est un obstacle à l'unité. S'il y a eu une capitulation des intellectuels en Europe devant la guerre, nulle part cette capitulation n'a été plus nette qu'en Allemagne. Romain Rolland en a des preuves, toute une série de preuves. Il lit dans les revues allemandes, puisqu'il est en Suisse, il lit des articles qui célèbrent la guerre sur tous les tons, qui donnent à la guerre des vertus positives, qui montrent que la guerre est pour les Allemands l'époque du grand renouveau et que l'heure de l'Allemagne commence à sonner au clocher de l'Europe.
La littérature française, si l'on peut dire, si l'on peut employer le mot littérature, proposait à peu près les mêmes tableaux.
En France, on assistera à une évolution analogue. Mais cette évolution est un peu décalée dans le temps. Et cela explique, pour une grande part, l'attitude de Romain Rolland. Alors que une fièvre extraordinaire s'empare des intellectuels allemands dès septembre 1914, jusqu'à la fin de l'année 1914, alors que déferle sur l'Allemagne toute une littérature de second, de troisième ordre qui célèbre les vertus de la guerre, en France, ce mouvement apparaîtra aussi, bien sûr, mais avec un certain décalage. C'est pourquoi Romain Rolland est d'abord sensible à la frénésie qui s'empare de l'Allemagne. Dans les articles qu'il écrit jusqu'à la fin de 1914, à certaines nuances près, il n'y a pas de doute pour lui, le combat qui est mené par les Alliés, le combat qui est mené par la France, est le bon combat. Les Alliés combattent pour une juste cause. Mais, précisément, cette cause les engage à une fidélité envers l'Europe. Et c'est à partir du moment où il aura des doutes sur l'absolue pureté de la cause des Alliés, sur l'absolue pureté des moyens qu'ils emploient, que Romain Rolland va commencer à considérer la guerre d'un autre point de vue. Non pas qu'il minimise à aucun moment les torts de l'Allemagne, mais il lui apparaît qu'il y a également des impuretés du côté des Alliés, et cela commence à le tourmenter, à l'inquiéter, au point que, à partir de juin 1915, il va se retirer dans l'isolement. Il va lui sembler qu'il n'est pas possible de faire passer une parole raisonnable entre les deux camps qui sont aux prises. On peut donc dire que, dans une première phase, Romain Rolland a considéré que la guerre de 1914-1918 était une guerre de famille, une guerre entre la France et l'Allemagne, et que, dans ce conflit, c'était, malgré tout, la France qui avait le plus beau rôle. Mais, bien vite, il va s'apercevoir que les dimensions du conflit sont tout autres, qu'il n'est pas question seulement de la France et de l'Allemagne, mais qu'il est question de l'Europe. L'Europe va s'imposer à lui comme la notion qu'il convient de défendre. Son attention est attirée par des neutres, par des Hollandais, par des Suédois, par des Suisses, sur les soucis que se font ces petits peuples marginaux sur l'avenir de l'Europe à laquelle ils appartiennent. Et c'est précisément cette notion d'Europe qui lui apparaît en question. Cette notion d'Europe qu'il faudrait essayer malgré tout de sauver dans le conflit. Il suggère également de son côté une sorte de tribunal européen, de tribunal des consciences de l'Europe, pour essayer d'éviter que le conflit ne prenne des formes trop catastrophiques.
Notre premier devoir est, dans le monde entier, de provoquer la formation d'une haute cour morale, d'un tribunal des consciences qui veille et qui prononce sur toutes les violations faites aux droits des gens, d'où qu'elles viennent, sans distinction de camp. Et comme les comités d'enquête institués par les parties belligérantes seraient toujours suspects, il faut que les pays neutres de l'Ancien et du Nouveau Monde en prennent l'initiative. Ainsi que tout récemment, un professeur de la faculté de médecine de Paris, M. Prenant, en suggérait l'idée, reprise vigoureusement par mon ami Paul Seipel dans le journal de Genève. Il fournirait des hommes d'une autorité mondiale et d'une moralité civique éprouvée qui fonctionneraient en qualité de commissaires enquêteurs. Ces commissaires pourraient suivre à quelque distance les armées. Une telle organisation compléterait et concréterait le tribunal de La Haye et lui préparerait les documents indiscutables pour l'œuvre de justice nécessaire. Les peuples neutres jouent un rôle trop effacé. Ils ont une tendance à croire que contre la force déchaînée, l'opinion est d'avance vaincue et ce découragement est partagé par la plupart des pensées libres de toutes les nations. C'est là un manque de courage et de lucidité. Le pouvoir de l'opinion est immense à présent. Il n'est pas un gouvernement, si despotique soit-il, et marchant appuyé sur la victoire, qui ne tremble aujourd'hui devant l'opinion publique et ne cherche à la courtiser. Rien ne l'a mieux montré que les efforts des deux partis aux prises, ministres, chanceliers, souverains, et le Kaiser lui-même, se faisant journaliste, pour justifier leurs crimes et dénoncer ceux de l'adversaire au tribunal invisible du genre humain. Ce tribunal, qu'on le voit à la fin. Osez le constituer. Vous ne connaissez pas votre pouvoir moral, ô homme de peu de foi. Et quand il y aurait un risque, ne pouvez-vous le courir pour l'honneur de l'humanité? Quel prix aurait la vie si vous perdiez pour la sauver toute fierté de vivre? Et propter vitam vivendi perdere causas. Mais nous avons une autre tâche, nous tous, artistes et écrivains, prêtres et penseurs de toutes les patries. Même la guerre déchaînée, c'est un crime pour l'élite d'y compromettre l'intégrité de sa pensée. Il est honteux de la voir servir les passions d'une puérile et monstrueuse politique de race qui, scientifiquement absurde, nul pays ne possédant une race vraiment pure, ne peut, comme l'a dit Renan dans sa belle lettre à Strauss, mener qu'à des guerres zoologiques, des guerres d'extermination, analogues à celles que les diverses espèces de rongeurs ou de carnassiers se livrent pour la vie. Ce serait la fin de ce mélange fécond, composé d'éléments nombreux et tous nécessaires, qui s'appelle l'humanité.
L'Europe a été son grand souci pendant les années 1915-1916, et c'est sans doute pour son attachement à la notion d'Europe que l'Académie suédoise décidera de lui décerner le prix Nobel. Car c'est dans cette optique que les Suédois, préoccupés à juste titre de l'avenir d'une Europe à laquelle ils appartiennent, c'est dans cet esprit que les Suédois ont vu en lui un des rares esprits qui savait à l'époque s'élever au-dessus des différents nationaux pour songer à la survie de l'Europe.
L'histoire des rapports de Romain Rolland et de l'Allemagne n'est pas achevée, mais les attitudes de Romain Rolland sont maintenant fixées. Premièrement, dissociation de la culture et du peuple allemand des maîtres qui l'ont conduite à la guerre. Deuxièmement, à l'occasion de la guerre franco-allemande, prise de conscience européenne et prise de conscience planétaire. Dès 1933, Romain Rolland a pris très violemment parti contre l'hitlérisme en maintenant la distinction entre fascisme et Allemagne véritable.
Il est bien vrai que j'aime l'Allemagne, et que je l'ai constamment défendu contre les injustices et l'incompréhension de l'étranger. Mais l'Allemagne que j'aime, et qui a nourri mon esprit, est celle de ces grands Weltbürger, de ceux qui ont ressenti le bonheur et le malheur des autres peuples comme les leurs propres, de ceux qui ont travaillé à la communion des races et des esprits. Cette Allemagne-là est foulée aux pieds, ensanglantée et outragée par ses gouvernants nationaux d'aujourd'hui, par l'Allemagne de la croix gammée qui rejette de son sein les esprits libres, les Européens, les pacifistes, les Israélites, les socialistes, les communistes qui veulent fonder l'international du travail. Comment ne voyez-vous pas que cette Allemagne nationale fasciste est la pire ennemie de la vraie Allemagne ? Qu'elle la renie. Une telle politique est un crime, non seulement contre l'esprit humain, mais contre votre propre nation. Vous la saignez d'une grande partie de ses énergies, vous lui faites perdre l'estime de ses meilleurs amis dans le monde. Vos fureurs ont réalisé ce tour de force de faire l'union contre vous, dans tous les pays des nationalistes et des internationalistes. Vous vous refusez à le voir. Vous préférez parler d'une conspiration contre l'Allemagne. C'est vous, vous-même, vous seul, qui avez conspiré contre vous. J'ai dénoncé l'iniquité dont l'Allemagne a été victime après la victoire de 1918. J'ai réclamé la révision des traités de Versailles imposés par la force. J'ai demandé l'égalité des droits de l'Allemagne avec les autres nations. Mais pensez-vous que je l'ai demandé au profit d'une pire iniquité, d'une Allemagne qui viole elle-même l'égalité des races humaines et tous les droits de l'homme qui nous sont sacrés? Les adversaires les plus acharnés de la révision des traités ne pourraient agir d'une façon plus accablante contre l'Allemagne que vous. Vous-même, vous ne l'avez fait. L'avenir vous éclairera trop tard sur votre erreur meurtrière dont la seule excuse est le délire de désespoir où l'aveuglement et la dureté de vos vainqueurs de Versailles avaient jeté votre peuple depuis 15 ans. Pour moi, je maintiendrai, en dépit de vous et contre vous, mon attachement à l'Allemagne, à la vraie Allemagne, que les forfaits et les aberrations du fascisme hitlérien déshonorent. Et je continuerai de travailler comme j'ai fait toute ma vie, non pour l'égoïsme d'une nation isolée, mais pour toutes les nations associées, pour l'international des esprits et des peuples.
Donc, fermeté de l'attitude de Romain Rolland et conscience toujours plus vive du phénomène humain dans son universalité. On peut dire que c'est à l'occasion du conflit franco-allemand que Romain Rolland est devenu lui-même. Tout confirme dans cette idée. La correspondance de Romain Rolland exprime bien l'action délibérée de celui qui avait choisi d'établir entre les hommes des liens, les premiers liens, assez forts pour poser les bases d'une union véritable des peuples, en réalisant d'abord l'union des gardiens de la culture. On ne peut pas faire l'histoire des rapports de Romain Rolland et de l'Allemagne si brutalement on ne quitte pas l'Allemagne pour considérer le monde, tous les peuples sans exception du monde. C'est une guerre entre la France et l'Allemagne qui a proposé à Romain Rolland cette évidence. Le conflit franco-allemand n'est qu'un conflit parmi tous, mais tous doivent disparaître. Voilà ce que la correspondance de Romain Rolland fait déjà apparaître. La publication totale de cette correspondance ne pourra que confirmer ce point de vue. Mais peut-être me suis-je laissé emporter par le mouvement qui emporte Romain Rolland, par l'action, par le mouvement que suscite l'action et l'épopée de Romain Rolland. Jean Guéhenno, ai-je dit au-delà de ce que l'on peut raisonnablement dire?
La correspondance de Rolland est, pour le XXe siècle, pour les 50 premières années du XXe siècle, quelque chose d'aussi important, monsieur. J'en suis sûr, que la correspondance de Voltaire pour le XVIIIe. Et Rolland durera sûrement comme l'auteur de Jean-Christophe. Il est encore plus assuré de durer par cette correspondance qu'on ne va pas cesser de publier, parce qu'elle est révélatrice, elle est admirablement informée. Cela est le résultat encore d'au-dessus de la mêlée, c'est pour cela que j'ai choisi de partir de ce livre. C'est encore le résultat d'au-dessus de la mêlée, cette position morale qu'au-dessus de la mêlée avait donnée à Rolland, a fait de lui, je ne sais pas, une sorte de directeur de conscience pour le monde entier. Et la petite villa de Villeneuve, où je l'ai vue deux fois, je crois, car je n'ai pas beaucoup vécu près de lui, du fait qu'il était en Suisse, il m'écrivait toutes les semaines, souvent deux fois, dans les années 1928-1936, même 40. Il m'écrivait, mais je ne l'ai pas vu souvent. Mais cette petite maison de Villeneuve, où je l'ai rencontrée tout de même, était quelque chose comme Ferney. Tout y aboutissait. C'était, dirais-je, un bureau d'information des misères du monde. Dans une des lettres que j'ai de Rolland, on peut lire ce mot merveilleux, à mon sens. Là où bat plus fort le cœur du monde, je sens battre plus fort le mien. C'est un petit peu comme toute la langue de Rolland, toujours, souvent, un peu un peu plus haut encore que la pensée. C'est sa tendance. Il aime que, ça, que son expression soit un peu haute, pas seulement grave, mais haute. Là où je sens battre plus fort le cœur du monde, je sens battre plus fort le mien. C'est une formule admirable. Et je ne peux pas vous dire à quel point elle a été exacte. J'ai connu personnellement, je dirigeais donc Europe. Je n'aurais jamais fait d'Europe ce que je suis parvenu à en faire dans le cours de ces 7 années-là, s'il n'y avait eu Roland. S'il n'y avait eu Roland et ses lettres de Roland. C'était le moment, vous vous en souvenez, où de premières difficultés surgissaient pour ce qui est de la France même, avec l'Indochine. Toutes les histoires de Yen Bai, qui connaît encore Yen Bai, il vous vient. Toutes les histoires de Yen Bai, je les ai connues, j'ai été sûrement l'un des tout premiers à les connaître, et par une lettre de Roland. Et j'ai publié immédiatement dans Europe des papiers relatifs à Yen Bai. Les affaires de l'Inde, monsieur. J'ai été, grâce à lui, en relation personnelle avec Gandhi et avec Tagore. Pourquoi ? Et parce que, toujours les lettres de Roland. Roland m'envoyait tous les mois la petite revue que Gandhi lui envoyait à lui-même. C'était une petite revue faite de correspondance. Et nous publions, j'ai pu publier dans ces années-là, dans Europe, grâce à Roland, un courrier de l'Inde tous les mois. Je ne crois pas qu'aucun journal en France, en Europe, ait pu être mieux informé que nous ne l'étions, grâce à Roland. Quand Lauro de Bossis est allé jeter sur Rome fasciste, sur la Rome fasciste, du haut d'un avion, les appels à la révolte. Il avait écrit auparavant son testament, car il savait ce qui lui arriverait. Il est tombé, il a été jeté à la mer par les avions de Mussolini. Qui a publié ce testament, qui est proprement admirable? La même revue, grâce à qui? Grâce à Roland. Parce que avant de mourir, Lauro de Bossis avait envoyé à Roland son testament. Comprenez-vous, voilà ce qu'était Roland.
Dans le cadre de la journée Romain Roland, vous avez entendu Romain Roland et l'Allemagne, une émission de Georges Charbonnier, avec les témoignages de René Cheval, professeur à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Rennes, et de Jean Guéhenot de l'Académie française, avec François Chaumette et Michel Etcheverry de la Comédie française, texte inédit lu par Michel Bouquet. Chef opérateur du son, Francis Granal. Collaboration technique, Jean Laurence. Assistante, Nicole Villaume. Réalisation, Georges Gravier.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 6 décembre 1964. Rappelons que vient de paraître Journal de Vézelay, 1938-1944, de Romain Roland, édité par Jean Lacoste chez Bartillat.